science-fiction avec un thème en plus très précis, puisque c'est science-fiction entre ailleurs et demain. 30 minutes, on va y aller. On va surtout parler un petit peu de demain avec Alain et avec Jean-Luc, et puis on parlera d'ailleurs avec Karim Béroca, parce que Karim, la science-fiction, c'est pas bien son truc, mais ça va être bien. Rapidement pour Karim, quelques titres clés. La Porte, c'est oui dans Guillotine, très bon roman aux éditions AQSF qui vient de paraître, avec des faits et un roman policier. On a Cyclone aussi, chez les amis d'Organique, et le recueil des paroles dirigeables, un type de poupée gonflable. Un imaginaire plutôt déjanté, c'est drôle, ça va vite, ça raconte parfois n'importe quoi, mais c'est vraiment très bien. Donc on va pouvoir en parler avec lui. Donc lui, c'est plutôt l'ailleurs, juste à côté Alain Grousset. Alain Grousset, de multiples activités, hein, anthologiste, directeur de collection, plein de trucs, et auteur. Et dans le côté de demain, il vient de signer Gigante, un des deux romans de ce qui s'appelle Gigante chez La Talente avec Pierre Bordage. Et il y a aussi Sens Interdit, il y a eu La Guerre des Livres, notamment avec Extraterrestre, voilà, beaucoup de choses. La Patrouille de France, qui passe juste au-dessus de nous. L'année dernière, il y avait des canons napoléoniens, finalement, on change de temps. Jean-Luc Percastel, Prairie, qui vient tout juste de sortir, ou qui va sortir, voilà, qui vient de sortir. Les Enfants d'Erebus, Franca, Le Dernier Hiver, La Geste d'Allemand. Bon, la thématique sur la science-fiction, on va peut-être d'abord s'intéresser, puisqu'on a des auteurs à leur imaginaire. Pourquoi est-ce que vous écrivez de la science-fiction? Et puis, c'est affinité, genre de l'ailleurs. Jean-Luc.
Peut-être parce que je suis tombé dans le projet petit.
C'est une bonne réponse. Ça veut dire quoi? Quels auteurs?
Le premier auteur, c'était Francis Carcet pour Petit Espace. C'est le premier livre que j'ai lu. Un livre sans image. En 2 ans, c'est plus. Et après ça, j'ai continué dans la lignée, c'était fabuleux. Enfin bon. Puis, on peut retrouver une enquête, une tome.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en écris? C'est vraiment de l'affinité ou est-ce que tu. Quelque chose de plus pour faire du
bonheur. D'abord, je trouve que c'est parce que j'aime m'interroger sur ce que pourrait être un futur. Et pas me poser des questions. Là, par exemple, dans mon poker, c'est se poser des questions sur ce qui pourrait venir dans pas très longtemps. Donc, extrapoler à partir de ce qu'on sait. Ou alors, après ça, essayer d'imaginer. J'aime bien aussi, j'ai écrit aussi une série de livres post-apocalyptiques, si tu veux. J'ai carrément essayé d'imaginer un monde. J'aime bien ce côté, j'ai été marqué par Herbert quand j'étais gamin, tu sais, par une. Je veux dire, quand j'avais 12 ans, tout comme ça. Et j'aime bien ce côté créateur de monde. J'aime bien créer des mondes, tu vois, possibles. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Il y a s'interroger sur l'humain, de toute façon aussi, sur le devenir de l'humain. Créer des mondes à partir de choses qui existent, voir comment ça pourrait évoluer. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Par exemple, je ne sais pas, il n'y a pas très longtemps, si ça avait sorti. Je sais pas si c'est sorti en France, mais si, il y avait l'éveillement du futur, tu vois, ce genre de choses où on imagine la nature dans ton milieu, on va commencer à plus devenir. Par exemple, la Méditerranée, donc je sais pas, la Méditerranée qui est assez séchée, etc. Moi, ça me fascine, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Donc, oui, ça me fascine aussi pour le devenir de l'homme, donc mes livres sont là, je
pense. Quand tu fais un livre comme La Geste d'Allemand, par exemple, qui se passe donc en France, et qui parle d'un enfant différent, tout du moins. Pourquoi est-ce que tu utilises un roman l'imaginaire alors que tu pourrais faire un livre régionaliste classique? Quelle est la touche supplémentaire?
Alors l'imaginaire permet, selon moi, c'est pour moi, comme toujours, l'imaginaire, le fantastique, c'est un masque. C'est un masque qu'on pose sur la réalité pour pouvoir en parler, soit plus librement, soit pour forcer le trait. Dans le cas d'Allemand, je force le trait puisque le héros est difforme à cause, on ne sait pas, d'une certaine influence. Certains vont en dire ces radiations, d'autres vont se dire, enfin bon, ils mettent ce qu'ils veulent derrière. Moi, j'ai ma propre explication, mais je peux la dire. Et donc, si tu veux, le personnage, voilà, le trait, je voulais faire un personnage qui soit en but, parce qu'il est différent, soit en but à la compréhension des autres. Il y a tout un jeu sur le masque. Par exemple, le masque qu'on porte tous. Le masque qu'on a chacun, on a notre masque, on a des masques en ce moment, on n'a pas le même quand on est chez nous, on n'a pas le même des fois d'une personne à l'autre. Ne serait-ce que notre voix n'est pas la même. On se rend compte quand les autres nous parlent, quand on s'enregistre, que notre voix n'est pas la même, que selon qu'on s'adresse une personne à une autre. Bah vous, quand vous avez des gens plus difficiles à comprendre, vous connaissez bien les gens qui tentent de parler à un tel, qui tentent de parler à un tel. On se rend compte qu'on porte tous un masque. Voilà, dans le livre, c'est compliqué parce que le héros est vraiment difforme, c'est une espèce de cousin quasiment deux. Donc pour moi, le fantastique, bah, c'est un peu ça. Par exemple, dans Prairie, qui sort aujourd'hui, c'est une société d'hommes qui ont fait une expérience qui a même tourné, enfin un accident, ils ont été médiatisés. ça me permet, en décentrant voilà, des choses qui existent dans le monde réel, d'en parler poliment dans l'imaginaire, tout simplement. Alors que si on le faisait de manière cache dans le réel, on tomberait toujours sur des gens qui arrivent en fait de parler de l'intel, parler d'un tel, non, je ne parle pas d'un tel, je parle en règle générale de l'humanité. Je pense que la science-fiction imaginaire nous permet cette, nous donne cette liberté de parler plus librement des problèmes, qui à chaque fois sont des problèmes actuels parce qu'on est concerné par notre monde, par notre époque, même si on parle du futur ou si on parle de l'ailleurs.
Alors, même question, pourquoi est-ce que tu as dans la science-fiction?
Vraiment, si j'étais le héros, jusqu'à ce que je sois lecteur au fond noir, donc un roman de science-fiction, donc le pire, quoi. Je lisais avant les autres, les manuscrits. Et puis, ça se permet cette question, et si, pourquoi suspension, c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Et puis, de jouer un peu au dieu, c'est-à-dire en créant ailleurs une planète et tout, on recompose tout. Donc, on est un peu avec, je ne sais pas, peut-être on sort de la période des Lego. On a envie de recréer tout ça, tout un monde. Là, effectivement, bien entendu, derrière cette construction-là, on parle de notre société actuelle, de la problématique actuelle, et on essaie effectivement de pousser le curseur un peu plus loin et de voir où ça nous mène. Donc, on ne cherche pas à savoir ni à coucher sur le papier la vérité du futur qui nous attend, mais de créer un des futurs et montrer que voilà, c'est une des voies possibles. Et que si on prend par exemple cette voie-là,
et justement, sur un roman comme Giganté, qu'est-ce que tu avais envie de faire ou de dire?
Donc, j'ai écrit avec Pierre et j'ai amené l'idée d'une part que j'étais fasciné par le calendrier, en fait, de savoir toutes les problématiques qu'il allait se faire. En fait, il allait falloir plusieurs vies pour faire le tour de la planète, puisque la planète Giganté, il faut un siècle, un avion pour faire le tour. J'ai diminué parce que je voulais que ça soit vivant, mais bon, c'est un peu trop. Mais voilà, donc les problématiques là sur les voyages, comment ça, comment les sociétés s'organisent, comment elles se mettent, donc il y a des gens qui arrivent à passer plus vite avec des plus lumières, et d'autres n'emploient pas cette voie-là. Et les voyages en générationnel, c'est-à-dire c'est pas ceux qui partent qui vont arriver. Donc voilà, c'est tuel. Donc à ce moment-là, c'est des micro-sociétés qui se déplacent en permanence. Voilà, et ce but inaccessible pour ceux qui voyagent à cet instant-là, puisqu'il faudra encore plusieurs générations pour atteindre le but. Donc, comment ça les forme, comment intellectuellement, voilà, c'est ça. Voilà, c'est
ça. Comment lire donc, finalement. Car une même question, qu'est-ce qui fait que du coup tu écris plutôt dans les genres d'imaginaire?
Aucune idée. Qu'est-ce que je dois faire?
Science-fiction.
Parce que quand j'étais petit, pareil, j'ai eu une bibliothèque à côté de chez moi, il y avait plein de bouquins de science-fiction, c'était sympa, j'aimais bien les films de science-fiction. Et puis, moi j'en ai lu trop, je trouve que je suis un peu dépassé, j'ai un peu du mal à écrire. J'aimerais bien écrire des petites nouvelles comme Shakespeare, comme Bond, mais bon, ils l'ont déjà fait avant moi, c'était dur que moi. Donc, ça c'est la science-fiction, c'est l'histoire d'un pauvre gars qui se retrouve clubé et qui se retrouve en ses exemplaires. Les six exemplaires sont tous persuadés d'être l'original, quoi, parce que bon, ça fout un peu les bouts d'une copie, quoi. Non, ce qui est marrant, alors, quand je pensais aux influences, qu'est-ce que j'ai lu quand j'étais petit, j'ai lu pas mal de films caniques, et je me disais que c'était marrant parce que lui, il avait quand même une approche de la perception de la réalité, qu'est-ce que la réalité, nous sommes encore dans la bonne réalité, parce qu'on a croqué les acides, et on est. Et en fait, je me disais, c'est marrant parce que l'histoire de Cyclone, c'est la même chose, mais pas par rapport à la réalité, mais par rapport à l'identité. C'est six fois le même type qui se pose six fois les mauvaises questions. Mais toujours les mêmes, évidemment, sans jamais réussir à sur qu'est-ce que au niveau société, qu'est-ce qui pourrait être qui n'est pas aujourd'hui et comment l'aborder ou au niveau même de l'humain quoi. Ça compte pas. Faire la science-fiction, c'est fantastique.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'à partir d'une idée, à chaque fois, si vous posez des questions, que ce soit toi ou que ce soit Alain ou Jean-Luc, vous dites ok, on est une société miniature, comment on fait au milieu qu'en est-il du message? On dit souvent qu'on fait de la science-fiction et est-ce qu'on porte un message dans les romans pour critiquer les travers d'aujourd'hui? Est-ce que c'est à la base ou est-ce que c'est vraiment l'idée première et après les questions qui viennent? Et après, vous dites finalement, je vais parler plutôt de cette thématique-là.
Non, mais comme c'est dans un. On regarde des rats de laboratoire. Des rats, c'est des rats qu'on a inventés, que l'on a mis dans un certain. Dans une certaine situation, on voit comment ils évoluent. Donc à partir de là, on en déduit les choses. On commence pas au départ, dès le départ, on fait faire une morale. Par contre, effectivement, ça peut expliquer actuellement, peut-être un peu le désaveu de la science-fiction actuelle. Pourquoi les gens n'aiment pas trop ça? Parce que on est déjà dans un monde anxiogène. Et on se dirait, si on achète un livre de science-fiction qui lui-même est anxiogène, voilà la thématique par rapport à la fantasy qui a les mêmes codes, et ça se passe aussi ailleurs, avec une technologie aussi différente, sauf qu'elle n'a pas cette espèce de morale à la fin. Et je pense que si la fantasy marche bien actuellement, c'est parce que les gens veulent rigoler, veulent avoir des codes dès le départ, mais sans plus. Donc voilà, nous on essaie d'aller voir un peu plus loin, bon, peut-être que c'est un côté, une littérature entre guillemets un peu plus. Remettre un peu en question la réalité. Je pense que voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. Mais bon, en même temps, des fois, ça nous entraîne beaucoup plus loin que vous pouvez l'imaginer.
Jean-Luc, carrément, sur cette question-là.
Moi, je pense qu'à chaque fois, comme vous disiez tout à l'heure, je disais, on mettait un masque de l'imaginaire, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, on pose, enfin, pour moi, pour ma part, on va se poser, au moins, on se pose une question et on va essayer de répondre. Et que, dans chaque livre qu'on fait, il y a dans la meilleure grande vision qu'on choisit un thème en particulier dans ce livre-là qu'on va privilégier et auquel on va essayer de proposer une réponse. C'est peut-être un petit peu prétentieux, mais au moins de nous interroger dessus. Par contre, ce qu'on sait parfois pas faire, ou ce qu'à un moment donné la science-fiction, je trouve, n'a plus fait, c'est que pour moi, ça doit toujours rester quand même de l'aventure. Quelque part, ça doit rester. On doit avoir envie de se balader dans l'histoire, on doit avoir envie d'aller à la fin. Je pense que les meilleures histoires, c'est celles où s'il y a quelque chose à aller pêcher peut-être dedans. Et tu le fais sans douleur. Tu le fais finalement, c'est à la fin, tu te dis finalement, ça m'amène à réfléchir à ça. Mais c'est pas où on te dit, on est en train de faire un cours, parce que voilà, j'ai envie de dire, si je veux un cours de philo, je sais où trouver. Hein, si je veux un cours de physique aussi, on n'est pas là pour faire des. Voilà. Mais, par contre, ce qui est une des affections de la SF par rapport à la fantasy, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que la fantasy, c'est un peu comme des bandes, c'est-à-dire que ça a voulu mettre plus de temps, et on en fait ça. Dans la science-fiction, dès qu'on se passe dans le futur, bon, il y a quand même certains prérequis. Il faut quand même ça. Ils ont quelques connaissances, ou moins quelques bases, peut-être, en physique, etc., qu'il faut connaître. En fantasy, les orques, il y a trop de vision dans les jeux vidéo. Il y a besoin de, voilà, maintenant, de vidéo, alors Fortnite, des machins comme ça. Ils auront un peu de ce que c'est, on est là. Voilà. Après, on peut s'amuser avec ses copains, on peut s'amuser avec des tournées. Et je pense que les personnes en abordent peut-être plus facile. Et de l'élève, ça.
Moi, je crois qu'écrire la science-fiction, ça m'aide dans la vie à te montrer que la normalité d'aujourd'hui deviendra la normalité de demain. Et donc, ça permet d'accepter les choses. Toi, tu parles des clones, par exemple. Les clones, actuellement, si la société n'a pas vraiment prévu ça, c'est-à-dire parce que si on est assez riche pour avoir son propre clone de soi-même, donc il pourra s'en servir comme des étagés au moment voulu. Le meilleur moyen de parler en prison, c'est de tuer son propre clone, puisqu'on vient de se tuer soi-même, donc on vient de se suicider. La société n'a pas prévu la législation. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait un clone? Donc voilà, montrer que ce qui est complètement anormal aujourd'hui, si ça se met en place, il y a une nouvelle normalité, et ça deviendrait une acceptation des choses qui nous ont complètement à penser aujourd'hui. Et ça aide aussi à avancer.
Karine, là-dessus, quand tu fais si clone, il y a envie de messages aussi derrière.
C'est plus un boulot atomisé sur l'identité, sur les problèmes de morcellement de l'identité, de quasiment schizophrénie, plus que sur une histoire d'une idée de société. Mais après les problématiques poseront le clonage, si ça existe un jour, la société s'adaptera. La société n'est pas c'est que justement on peut prendre des postulats de base, par exemple, mettons que tout le monde est trop pour la disponibilité, et puis contre une sorte de société dessus, de monde, d'histoire, sans forcément que ça soit très réaliste, parce qu'il y a beaucoup de science-fiction qui où la science elle est complètement à la rue, mais c'est pas grave, faut pas le dire. Mais ça permet de placer des êtres humains toujours dans des milieux qui sont différents, qui sont dans des situations qui sont probablement futuristes ou pas, mais qui. On a l'exemple d'un auteur que j'aime bien qui s'appelle Bussolo, qui a écrit beaucoup de science-fiction, sur des œuvres de science-fiction, où il y avait toujours à la base un truc complètement aberrant comme postulat de départ. C'était par exemple, ils étaient sur un corps géant perdu dans l'espace, où ils atterrissaient, et il y avait plein de gens qui habitaient là. Donc ils construisent des micro-sociétés là-dessus, et c'est toujours très 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 bien fait, très intelligent. Après tout ça, il a raconté des histoires qui étaient assez sympas. Mais c'était de la science-fiction parce qu'il se permettait de traverser complètement le monde tel qu'on connaît et de voir comment les gens pouvaient s'organiser, pouvaient vivre. Hein, parce que l'être humain, en fait, c'était l'adaptation qui est assez incroyable. Voilà, bon, moi, c'est ce genre de science-fiction que j'aime bien, qui est peut-être plus basé sur le rapport de l'humain avec le monde que plutôt avec la science, ou le rapport de la science avec le monde. Je viens d'arriver, j'étais dans le train, je vais marcher bien, c'est pas la science fiction.
De toute façon, pour moi, c'est un peu l'intérêt, c'est ce que les gens disent, c'est des laboratoires où on met une situation, on met comme une simulation, on voit par exemple quand la mer est arrivée, tout à coup, une espèce de période glaciaire qui arrive, la société se délite, etc. Qu'est-ce qui se passe en tant que groupe humain, on voit comment ils réagissent à ça. Donc, comment la société autour va réagir. Qu'est-ce que l'humain va vivre? Pour moi, l'intérêt, c'était de savoir voilà, qu'est-ce que l'humain va révéler quand les lois s'effondrent, quand les lois ont plus cours, qu'est-ce qui se passe? On choisit bien comment on s'organise. Après, c'est la même chose, on raconte le génie société microscopique. On va réussir déjà à voir avec les lois physiques, c'est rigolo, mais comment s'appliquer c'est énorme. Et de savoir qu'on peut se retrouver enfermé, c'est pas dans une goutte d'eau, vraiment, c'est assez dingue. Et on savoir qu'on peut tomber très haut, par exemple, de la hauteur d'une montagne, et pas se faire mal, tout simplement parce qu'on est tellement léger que le feu tombe vers. Et on ne voit jamais assez vite pour vraiment se tuer, c'est pour ça que les zombies. Mais ça, c'est le point de vue purement physique. Mais après, comment une société va se construire là-dedans avec les ennemis vulnérables, par exemple, ou d'autres, les insectes qui vont être assez rapides, etc. Est-ce qu'elle va prendre, est-ce que cette société va prendre le modèle sur les insectes pour survivre dans ce qu'elle va appliquer sur l'humanité? Est-ce qu'on peut tout sacrifier sur l'autel de la survie, justement, finalement? C'est un peu de questions qui
rentrent. Justement, on aborde ce point un petit peu scientifique, quid de la crédibilité scientifique, entre guillemets, et de la documentation.
Je pense qu'il faut trouver un certain dosage, un certain équilibre.
Ouais.
Bon, c'est très sérieux, il y a l'art saillante.
Est-ce que quand tu imagines, par exemple, pour les rires, est-ce que ça veut dire que tu bouffes 10 ans de documentaires animaliers
Moi, j'adore ça, donc j'en connais à peu près sur le bout des doigts. Il y a un truc dans le livre, par exemple, qui n'est pas possible. Pour le reste, après ça, les documents, ils sont exactement comme ils sont en chasse. Il y a un truc, par contre, qui n'est pas possible, c'est que c'est un métier qui ne pourrait pas voir des yeux pour en un. Parce que la rétine, etc., c'est très vert, on ne pourrait pas voir en verre. Les insectes, ils ont résolu le problème, ils ont le vieux facile. Ils discutent donc en fait avec nos petits récepteurs, nos petits capteurs, et c'est là qu'on peut voir nos corrigeants en particulier. Donc ça, là j'ai fait un petit peu pareil pour rétrécir des humains. Pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas le faire. Il faudrait une énergie extraordinaire si on voulait rétrécir, enfin réussir à comprimer les atomes, parce que théoriquement, ça pourrait être faisable, et bien vite, on va dire. Mais bon, techniquement, pour l'instant, en tout cas, ça marche pas.
Pareil, ce travail de documentation, de crédibilité, de science.
La crédibilité, moi je ne la cherche pas forcément, je pense que c'est avant tout c'est l'aventure qui se passe dans le livre, surtout que j'écris principalement pour la jeunesse. Donc je ne veux pas faire 50 pages de description en science pour mettre quelque chose parce que l'image, c'est les enfants l'ont fait, ils ont des raisons d'ailleurs. Donc je reste sur l'aventure avant tout. J'injecte le juste nécessaire pour rendre le décor
voilà.
La documentation, c'est autre chose, on essaie d'être plus quoi. Donc, le peu qu'on va mettre, c'est très bien, mais c'est pas vraiment un objectif. C'est pas vraiment comme effectivement certains par science, évidemment, c'est pas possible. 50 ans à accélérer, il va falloir mettre 50 ans à faire ça, peut-être sur un tailleur, ça a sorti le film.
C'est pas facile pour partir. Parce que je mets les affaires entre eux, je vois ce que pour les risques que j'ai fait, c'est que j'ai mon côté, mon côté Herbert, tu vois, j'ai fait des annexes. J'aime bien les annexes, quoi, tu vois, c'est peut-être parce que les banques ou avec des espèces, tu vois, avec des rapports de taille, chaque créature présente des espèces que je suis dans le livre, hein, en donnant les vents, que leur donne les bêtes, hein, en expliquant un peu les principes physiques qui s'appliquent à cette taille avec de manière rigolote, de manière amusante. Et en mettant, voilà, par exemple, pourquoi leur invité, pourquoi ils peuvent tomber très haut, pourquoi ils vont passer en mer, voilà, pourquoi ils peuvent quasiment remplir la surface d'un liquide. Là, je donne les principes physiques qui se disent, mais sans donner les équations, etc. C'est pas, c'est amusant. Si le lecteur il avait pouvoir, il peut se rendre aux annexes, il va plus loin. Je détaille aussi cette société avec ses mœurs, etc.
Juste un petit mot sur les structures politiques, sur la parler de religion. C'est ce que tu disais à peu près. Alors, tu en as parlé, tu en parles aussi dans Gigante et puis aussi dans Mort sans Saint-Pierre.
Est-ce que c'est un ordre? Parce qu'à partir du moment où tu inventes un monde avec des gens, souvent c'est très pauvre finalement ce que l'on écrit, parce qu'on met en place ça, c'est pas que la merde sur terre, donc de civilisation spirituelle et de la religion, donc voilà, ça paraît normal que apparemment l'être humain a besoin de
l'ordre, il a besoin d'expliquer que donc il faut la créer pour
lui, voilà, il a fait forcément malgré dans les grandes choses en place la première religion de la planète Terre, et puis il arrive avec un propre religion et la nation qui s'en fait, mais ça paraît tout à fait.
Et sur la structuration justement de ces religions, donc vous avez fait.
Alors moi je sais que par exemple dans Poirier, même si je ne m'attarde pas dessus, si tu veux, parce que je ne vais pas non plus laisser le lecteur avec ça, mais moi justement c'est une des choses qui m'arrive, c'est que en fait, cette société elle est sous la coupe de. En fait c'est une société dans Poirier de quoi qui s'appelle le 5. S-I-N-K, en fait le 5, pourquoi? Tout simplement parce que dans le milieu ils sont les seuls créatures à voir 5. À 5 ans, mais donc pour eux c'est leur spécificité, toute leur culture et toute leur société est basée là-dessus. Il y a 5 castes, la caste des chasseurs, la caste de ceux qui amènent la nourriture, la caste des prêtres, etc., des artisans, et après ça il y a le doigt qui chapeaute contre le reste. Et donc par exemple, en groupe de chasseurs, on appelle 5 mains de chasseurs, à chaque fois ils sont 5, donc le chiffre 5 pour eux. Donc, par contre, leurs prêtres, hein, qui se sont emparés du pouvoir, ils ont dit voilà, ben, on était des choux, on était des géants avant. On était des géants, on marchait voilà, au-dessus du monde, et puis là, on a commis un péché, on a été rapissé à cette taille-là, et c'est notre repentance de vivre au milieu des insectes, au milieu de ces créatures. Donc, il faut bien se conduire dans la vie, suivre les codes de cette société-là. Si on veut si on va avoir une chance, une fois mort, de redevenir un géant, on ne peut pas se mettre dans la vie. Voilà. Et donc, voilà ce que je disais, mais lui, du coup, pour survivre, disons, on a appliqué du bien de la famille, c'est-à-dire que les femmes sont. Enfin, il y a ces grands, si un garçon on le prend, et celui qui s'est fait passer par le temps, on le voit, un chasseur, et puis arrêter. Ils ont détruit aussi les mêmes de la famille, où ils étaient spécialisés en fait à chaque fois, chaque manche, et qui se font un peu calquer sur les insectes. Voilà. Et donc, du coup, ben, ça pose la question de la prudence de la religion dans une société, et aussi ce que je te disais tout à l'heure, voilà, est-ce qu'on peut tout sacrifier sur l'autel de la survie, est-ce que ça vaut le coup de survivre sur les pêches, bon, un peu humain, quoi, si un. Donc, ben, mon héros qui va arriver dans cette société va être un peu le qui va faire tribut au voyage, qui va mettre un petit peu en cause de ce système qui est là.
Le temps file, hein, du coup, j'ai dit que c'est la conférence la plus courte, mais bon, un petit point éditorial, c'est facile aujourd'hui de vendre de la science-fiction à des éditeurs en jeunesse ou en adulte.
Et sans jeunesse, en adulte, peut-être. Il faut les cacher.
Et voilà, donc là où c'est difficile, c'est qu'il y a effectivement quasiment de moins en moins de collections. De temps en temps, on arrive en place, Super Mario, Flash Hatch, et voilà, je m'attends ce moment au niveau des science-fiction. Les histoires de mode.
Si c'est pas bien en découpe de la science-fiction, vous êtes marché. Parce que s'il y a l'étiquette science-fiction, les gens, ça leur fait peur.
science-fiction. Oh, non, non, vous aimez ça, non, non, non. Vous avez Avatar, ouais, génial.
Je leur raconte par exemple, les gamins sont là, mais super, super, mais si on revient à la vie, ils sont là.
Étiquette, étiquette. Il nous reste 5 minutes, est-ce que quelqu'un a une question pour les auteurs? Allez-y, c'est le moment. C'est le temps de questions le plus court du monde, comme la conférence. Bon, dernière question peut-être pour nos auteurs, est-ce que vous avez chacun des projets de science-fiction à venir?
Yeah. Ouais, j'ai un livre, putain de bouquin, pardon, un sacré livre de science-fiction, en 12 tomes. Ça se passe sur une planète pas très proche. Et je voulais justement t'en parler, puisque tu es en tant qu'éditeur d'ActuSF, donc je voulais savoir si ça t'intéresse, mais on pourrait essayer de rencontrer tout de suite. Si j'aimerais bien écrire la science-fiction, mais ça me pose trop de problèmes dans ma tête parce que j'aimerais bien que un monde soit de demain, soit une autre planète, mais ça soit très très. Ça fonctionne quoi, qu'il n'y ait pas de truc. Tout d'un coup, je me dis, c'est un peu n'importe quoi là, ils ont posé habiter sur la planète et ils ont construit une ville. Donc ça me pose beaucoup de problèmes dans ma pauvre petite tête et que j'aurais vraiment. J'aurais bien organisé, j'aurais pris des centaines de milliers de notes, peut-être que j'écrirais un livre. Personne n'ira, moi j'aurais fait, je serais heureux de m'améliorer.
Est-ce que dans Fée, oui, les guillotines, comme l'histoire d'une fée qui va chercher sa sœur, son alors c'est un détective privé.
Ça va, je maîtrise les escaliers, les ascenseurs. Je dis, si on veut construire une société, une planète, une société, une civilisation complètement à partir d'une mer, on sait bien que ça tienne, que ça tourne, que ça soit pas. Moi, c'est un problème personnel. Ne vous inquiétez pas, j'irai mieux l'année prochaine.
Bon, on fait des consultations.
Dans l'hôpital, nous le prêtons pendant 48 heures. On leur rend, on va faire une sortie à Noël.
Bon, alors, le projet.
Je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appelle Marie-Charles. Je ne sais pas encore trop, je ne vais pas encore donner la définition de savoir si la règle de rotation a changé. Le terme, mais bon, c'est là. Bon, voilà, c'est la planète a changé de la climat et de la départ. J'essaie d'arriver à mettre un peu en structure, en script command, c'est-à-dire je ne sais pas trop où je vais, pour voir. Vous savez que je suis très structurant, moi, et j'essaie. Et alors, à force d'écrire, des gens comme Pierre Bordage qui sont capables d'écrire des compagnies comme ça, lorsqu'on leur demande le synopsis, c'est une demi-page, parce qu'ils ne savent absolument rien, ce qui va se passer, mais dans la forme d'auteur, structurant. Donc, du coup, ça m'a donné envie d'être un peu comme lui, d'aller voir un peu ça.
C'est tant bien que j'en parle. Non, j'ai au moins deux livres, trois livres, en fait, en fait, trois livres, il y a un déjà texte sur les livres. Non, mais je te jure, en plus, il y a un déjà texte qui s'appelle Terre, T-H-A-R, et l'histoire du futur. J'ai fait à peu près trois livres, mais genre, en structurant, j'ai fait un livre sur l'univers, par exemple, pas de 300 pages, ça me fait peur à moi-même. Donc, là, j'ai écrit les deux premiers, qui sont le troisième, qui est au fond. Ils sont déjà faits. Et j'ai énormément de projets sur une histoire avec un jeune et ses générations, etc. Ça, c'est juste un projet pour un projet. Moi, je travaille pas mal sur. Je suis genre aussi une trentaine de fois, j'ai chaque chapitre détaillé, les personnages, etc. J'ai une approche de 76. Plus ça va, et plus je structure meilleur. Alors que moi, je partais comme ça, je ne réfléchissais pas. Ainsi que d'autres livres qui se passent sur le futur. Et puis, je t'en ai pas mal.
Donc, il ne faut pas dormir, c'est tout.
On garde la fête, on va dormir.
C'est dépassé. Eh bien, merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Une autre conférence de science-fiction, puisqu'on va parler de la vie extraterrestre, va arriver. Merci à vous.